On vient de le dire, bonjour à tous. Je suis professeur à l'université de Bordeaux, donc j'enseigne à Bordeaux, mais vous voyez que mon laboratoire de recherche au CNRS est ici, à la station Marigny-Arcachon.
Oui,
alors je vais vous parler des nanoparticules qui envahissent notre environnement totalement. Il y en a dans les revêtements de peinture, dans les tubes dentifrice, dans les crèmes de bronzage. Donc c'est dans notre environnement. Et comment est-ce que cela peut se disséminer? Comment est-ce qu'on peut retrouver ces nanoparticules drainées, par exemple, d'une façade de peinture, et bien dans les eaux de pluie, puis dans les rivières, les sédiments, et puis enfin dans les poissons? Eh bien, je vais vous compter ça. Voici des photographies électroniques de nanoparticules qui ont été lessivées par des eaux de pluie, ici sur une façade fraîchement peinte à l'université de Berne, et ici sur une façade en ville, de ma ville de Berne, d'accord. Donc effectivement, on voit que le lessivage par eau de pluie draine et entraîne dans les eaux de pluie des nanoparticules. Donc ici, vous avez, on voit très bien la quantification dans les eaux de pluie à partir d'une façade modèle à l'université de Berne. On obtient jusqu'à 600 microgrammes par litre de titane, puisque ce sont les peintures qui contiennent les dioxydes de titane. Et sur une façade en pleine ville, vous voyez, on a beaucoup moins, heureusement, environ 16 microgrammes par litre de dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire. Enfin, ça, c'est le total. Et la forme nanoparticulaire, après centrifugation, recueillie dans le surnageant, représente 8 microgrammes par litre. 8 microgrammes par litre, au bout d'une année, ça va faire plusieurs grammes, d'accord, qui vont être drainés à partir d'une seule façade dans les eaux pluviales. Donc, une fois que ces nanoparticules sont drainées dans les émissaires, dans les stations de traitement d'épuration, puis enfin délivrées, parce que bien entendu, les stations d'épuration sont incapables de recueillir et de stopper ces nanoparticules, que va-t-il se passer pour l'environnement aquatique? C'est à quoi ont répondu des chercheurs états-uniens. Vous voyez, donc ils avaient des unités expérimentales, donc ce sont des bacs qui contiennent de l'eau douce avec des plantes. Et puis, c'est de l'eau de mer, pardon, au fond des bacs un sédiment, et puis le végétal, hein, c'est de l'herbe, une crevette, un cyprinidé, donc c'est un gardon, hein, un escargot marin, et également donc, de jeunes palourdes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délivré au temps zéro une simple dose, d'accord? Donc 7 10 puissance 11 nanoparticules, cylindriques, on les voit très bien ici, ce qui représentait une simple dose de 157 microgrammes par litre. Donc vous rappelez, tout à l'heure, sur une façade neuve pouvait délivrer 600 microgrammes par litre. Donc on est dans des conditions finalement pertinentes du point de vue environnemental. Et que se passe-t-il après 12 jours? Eh bien, vous le voyez, dans l'eau de mer, il n'y a pratiquement plus de nanoparticules, et on les retrouve dans les sédiments, dans les biofilms. Que sont les biofilms? Eh bien, vous en avez tous fait l'expérience, par exemple, dans une eau de rivière. Lorsque vous marchez sur des galets, vous avez un revêtement verdâtre, très glissant, un peu visqueux, un peu écœurant. Eh bien, c'est un biofilm. Donc, c'est un amalgame, un assemblage symbiotique d'algues unicellulaires et également de champignons et de bactéries. Okay, donc vous voyez que les biofilms accaparent une très grande quantité de nanoparticules, mais également les végétaux et bien les palourdes, puisqu'elles filtrent, et enfin le poisson. Donc, on visualise ici qu'en effet, des particules de dioxyde de titane ou d'or qui auront été lessivées d'une façade vont se retrouver en système aquatique ou marin, effectivement vont se disséminer dans tous les compartiments possibles de l'environnement. D'accord? Et maintenant, quelle est l'incidence toxicologique sur les êtres vivants? Donc je vous ai montré des données de la littérature, maintenant je vais basculer vers nos propres expériences. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes spécialisés dans les études à très faible dose. Donc, nous battons les records en termes de doses. Et donc, je rejoins ce que dit le professeur Malbaum juste avant, c'est-à-dire que nous vérifions, nous aussi, des effets non linéaires, et pas seulement donc avec les perturbateurs endocriniens. Donc, nous avons, chez le poisson zèbre, testé deux types de nanoparticules, donc celles d'or, qui sont abondamment utilisées maintenant à des fins médicales, mais pas seulement. On en retrouve, vous voyez, pour des tests de grossesse, on en retrouve dans les pâtes dentifrices. Et, chose assez extraordinaire, on en retrouve même dans des boissons qui sont censées représenter une cure de jouvence, la panacée universelle. Il s'agit vraiment de pensées magiques. Et vous le voyez, la société Mesogold états-unienne vend des nanoparticules, une boisson que l'on peut boire. Vous le voyez, c'est commercialisé par Amazon. On vous indique même gift wrap. On vous indique même qu'on peut vous donner, si vous l'achetez, à la demande, un emballage, un papier cadeau. C'est extraordinaire. Sur Amazon, vous avez un forum où certains hommes disent qu'ils en prennent beaucoup afin de faire du sport et que ça décuple leur capacité. Certains disent même que leur érection est soutenue pendant des heures. Donc, encore une fois, comme beaucoup d'autres technologies, la vente, la commercialisation précède l'analyse toxicologique. D'accord ? Alors, quelle est la conséquence sur nos poissons ? Voici notre expérience. Nous avons envoyé, donc vous l'avez vu dans nos expériences états-uniennes, très rapidement, lorsqu'on met les nanoparticules dans de l'eau, elles vont être très rapidement disséminées dans le sédiment et dans la faune, la flore. Donc, ce que nous avons voulu faire sur le poisson zèbre, c'est mimer son comportement naturel. Dans le milieu naturel, le poisson zèbre ingère et consomme des petits invertébrés puisés dans le sédiment. D'accord ? Donc, nous avons voulu mimer ce type de comportement. Et vous le voyez, là, en microscopie électronique, nous voyons des nanoparticules donc de 12 nanomètres de diamètre ou de 50 qui ont été disséminées dans la nourriture. Et vous le voyez, le procédé d'incorporation et de préparation de nourriture a conservé les nanoparticules sous forme discrète. Elles ne sont pas agrégées. D'accord ? Les conséquences qui s'en suivront, si d'aventure il y en avait, serait bien entendu dû uniquement à la forme nanoparticulaire. Nous avons testé deux natures métalliques, le sulfure de cadmium. Alors, le sulfure de cadmium est abondamment utilisé. C'est ce qu'on appelle les points quantiques ou quantum dots. Dans l'électronique, vos ordinateurs, vos téléphones mobiles sont pleins. À Marseille, on dit café. Ils sont pleins de ce type de composés. À tel point, par exemple, que lorsque. Au moment de l'impact des avions sur la tour jumelle à New York, dans les mois qui ont suivi, donc la littérature, ça vous fait l'écho, il y a eu des pathologies liées notamment à l'intoxication au cadmium dans les habitants du bas Manhattan, qui étaient dues effectivement à tous ces ordinateurs qui ont été pulvérisés et vaporisés avec leur contenu cadmique. D'accord ? Donc, deux types différents de nanoparticules de taille. Alors, voici ce que nous avons observé en termes de bioaccumulation, vous le voyez. Donc, en ce qui concerne le sulfure de cadmium, on en a retrouvé bien entendu dans le foie. On en a retrouvé dans le cerveau. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est statistiquement significatif du contrôle. Donc, on le retrouve dans le cerveau, puis dans le poisson entier. En revanche, pour les nanoparticules de taille supérieure, ce n'est statistiquement significatif que dans le foie. Pour l'or, étant donné que la limite est 10 fois supérieure à celle de cadmium, nous étions en fait en deçà du seuil de détection pour l'or chez le poisson. Je vais aller vite, il s'agit de l'expression génétique. Ce qui est figuré dans ce tableau pour différents gènes marqueurs de la réponse au stress, par exemple les superoxydismutases qui neutralisent le sang oxydant. Vous le voyez par exemple ici, ce 3 pour le gène SOC2 dans le cerveau de poissons exposés aux nanoparticules d'or de 12 nanomètres. 3 signifie que le gène était 3 fois plus exprimé dans le cerveau des poissons exposés que ceux des poissons contrôle. Okay? c'est une expression différentielle. Donc, ce qui apparaît très nettement, par exemple, c'est un effet de la taille. On voit très bien que les nanoparticules d'or de petite taille suscitent une réponse génétique beaucoup plus importante, de plus grande ampleur que celle de petite taille. Et également, la nature chimique à taille égale également influence la réponse génétique. Vous voyez par exemple que ici dans le foie, donc 1 sur 18, ça veut dire que le gène là est réprimé 18 fois. Or, vous vous rappelez tout à l'heure des chiffres, le foie accumule beaucoup de nanoparticules de sulfure de cadmium. Et on a une répression. Alors que, bon, parallèlement, je ne vous montre pas les résultats, mais nous avons prouvé qu'il y avait un choc oxydant installé dans ces tissus. Par choc oxydant, j'entends une augmentation de la peroxydation lipidique et du niveau de l'anion radicalaire superoxyde et de peroxyhydrogène. Donc il s'agit, là, bien entendu, d'une réponse totalement contre-adaptative. Ça, c'est à l'encontre de la physiologie poisson de réprimer ces gènes de neutralisation du choc oxydant. Donc là, je n'ai pas le temps, je passe sur le principe qui nous permet de quantifier les atteintes génotoxiques. Donc, c'est une nouvelle, c'est une technique qui repose sur la RAPD, donc l'amorçage aléatoire de l'ADN génomique avec de petites amorces qui sont ici. Hein, j'en représente deux. Donc, c'est une technique qui avait été abondamment utilisée, entre autres par les phylogénéticiens, pour étudier le polymorphisme génétique intrapopulationnel, mais que en toxicologie, on peut abondamment utiliser pour vérifier des impacts génotoxiques. Et notre rapport a été de rendre quantifiables ces certaines génotoxiques. Et vous le voyez, par exemple, en réponse après exposition aux nanoparticules de sulfure de cadmium ou d'or, par rapport aux témoins, par exemple, avec l'amorce OPD11, qui ne fait que 10 nucléotides de longueur, alors que le génome du poisson zèbre fait 1500 millions de bases. Donc, d'accord, on utilise un tout petit outil de 10 bases de long sur un total de 1500 millions. Et pourtant, vous le voyez, on passe là de 2,1-10-5 à 4310-5 altérations par unité génomique en moyenne. D'accord. Donc, le génome est bien modifié. Alors même, vous voyez, pour les particules d'or, alors même qu'on est en deçà du seuil de détection. Okay. Alors, les nanoparticules piégées dans les sédiments aquatiques, à rebours, peuvent-elles être libérées dans la colonne d'eau? On a vu tout à l'heure qu'effectivement, les nanoparticules qui étaient libérées dans l'eau s'agrégeaient et tombaient dans le sédiment. Le sédiment était un compartiment puits, un puits assez abondant. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une expérience toujours sur le poisson zèbre avec ce type de nanoparticules d'or, d'accord. Donc, tout simplement, nous avons mis 16 mg par kilo ou 55 dans le sédiment. Et puis, nous avons observé, après 20 jours, que la colonne d'eau contenait 0,25 microgrammes par litre ou 0,8 microgrammes par litre de nanoparticules. Donc, ce qui représente environ une concentration de environ 65 000 fois moindre que ce qu'il y a dans le sédiment. D'accord. Donc, concentration dont les toxicologues classiques disent qu'elle ne saurait représenter un quelconque danger pour les animaux. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je ne vous montre que le résultat concernant le cerveau et notamment l'activité de l'acétylcholinespérase, donc une enzyme qui régule le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Et vous voyez qu'il y a une augmentation substantielle, statistiquement significative, de cette activité, corrélée d'ailleurs avec une augmentation à la plus haute dose de l'expression du gène de l'acétylcholinespérase. Donc le cerveau voit bien quelque chose à des doses excessivement faibles. D'accord. Enfin, le compartiment qui est le sol maintenant, est-ce que des animaux présents dans le sol peuvent-ils être soumis, impactés par les particules? Donc, nous avons utilisé un lombricidé, le ver de terre Eisenia fœtida, essentiellement parce que vous voyez, sa peau est nue et crue. Il a un derme, il n'a pas d'épiderme. Donc, les produits chimiques peuvent passer, perspirer, passer la barrière cutanée. Donc c'est un excellent modèle de ce point de vue-là. Et donc, voici notre expérience, donc nanoparticules d'or et d'argent, 2, 10 et 50 mg par kilo, et puis les témoins ioniques. Et donc, voici ce que nous avons obtenu. Ça a disparu. C'est probablement parce que je travaille sur IMAC. Bon, peu importe. Nous avons démontré qu'il y avait une peroxydation lipidique, matérialisée par le dosage de ce marqueur de la peroxydation lipidique, le malonaldéhyde, et une carbonylation protéique. Ce qui signifie qu'il y avait un choc oxydant très important dans ces vers de terre, et même à la plus faible dose de nanoparticules. Donc un choc oxydant, j'entends, je crois que l'avoir déjà dit tout à l'heure, mais la génération, par exemple, de radical peroxyde ou de peroxyde d'hydrogène, et précisément, et c'est la dernière planche, nous avons dosé la catalase. Donc la catalase, cette enzyme, eh bien, tout simplement neutralise le peroxyde d'hydrogène intracellulaire. D'accord. Et vous voyez que pour différentes doses, le dosage de l'activité spécifique de la catalase, extrait des tissus, montre en fait une chute. Donc c'est paradoxal puisqu'il y a un choc oxydant. Donc on devrait s'attendre du point de vue adaptatif à ce que l'animal procéda à la surexpression du gène de la catalase. Eh bien, d'ailleurs, on a dosé le gène de la catalase et on obtient le même résultat qu'avec le dosage de l'activité enzymatique. Vous voyez, vous avez une chute. Et ce qui est très joli, là, par exemple, à 2 mg par kilo, ce que vous voyez, c'est l'effet statistiquement significatif uniquement pour les formes nanoparticulaires d'or et d'argent, et pas pour les formes ioniques. Donc, ce qui prouve que cet effet est vraiment lié, donc l'effet aux faibles doses, est vraiment lié à la forme nanoparticulaire et non pas ionique. Okay. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu de ne surtout pas acheter la solution miracle Mésogol et d'en consommer. D'accord. Parce que je ne sais pas si ça influence vraiment l'érection, mais en tout cas, ça influence le cerveau. D'ailleurs, ça ressemble un peu à... Bon, ça devrait pas s'imaginer, mais ça ressemble à ce qui avait eu lieu il y a un siècle de cela, lorsque Pierre et Marie Curie avaient découvert le radium. Étaient vendus alors au public des boissons supposées être énergisantes et chassant tout maléfice. C'était vendu comme étant la panacée universelle. Bien entendu, on est revenu là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.